La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il a passé 27 années de sa vie enfermé dans un asile d'aliénés comme à Charenton, ainsi que dans les prisons de Vincennes ou de la Bastille, pour ne citer que les plus célèbres de ces tristes villégiatures. Son patronyme de Sade connote jusque dans sa sonorité le vice, la luxure et la perversité dont on l'a toujours accusé, mais dont il se défendait au nom de cette nature humaine qu'il souhaitait faire voir dans toute sa réalité. Toujours est-il que l'on se déchire autour de ce nom dans lequel certains voit un libérateur des hypocrisies de l'ordre moral et d'autres un égoïste sombrement dominateur. Demain, Éric Marty viendra nous parler des lectures que les intellectuels ont fait de Sade au XXe siècle, de Foucault à Barthes, d'Adorno à Philippe Solers. Hier, nous avons tenté de définir l'amour selon Sade avec l'historien Michel Delon. Enfin, lundi dernier, c'était comme d'habitude le temps de la biographie. Stéphanie Genant, dont le Sade vient de paraître chez Folio, était mon invitée. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour parler de Sade et les femmes, et ensuite de la femme de Sade, nous serons en seconde partie avec Cécile Guilbert, qui a édité avec Pierre Leroy le volume intitulé « 50 lettres du marquis de Sade à sa femme » aux éditions Flammarion en 2009. Et en première partie, nous sommes avec Florence Lottery, professeure de littérature française du 18e à l'Université Paris Diderot et également auteure de l'essai « Le genre des Lumières, femme et philosophe au 18e siècle » paru en 2013 aux éditions Classique Garnier. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Quel est l'objet de l'homme qui jouit ? N'est-il pas de donner à ses sens toute l'irritation dont ils sont susceptibles ? Afin d'arriver mieux et plus chaudement au moyen de cela à la dernière crise. Crise précieuse qui caractérise la jouissance de bonne ou mauvaise en raison du plus ou du moins d'activité dont s'est trouvée cette crise. Or, n'est-ce pas un sophisme insoutenable que d'oser dire qu'il est nécessaire pour l'améliorer qu'elle soit partagée de la femme ? N'est-il donc pas visible que la femme ne peut rien partager avec nous sans nous prendre, et que tout ce qu'elle dérobe doit nécessairement être à nos dépens ? Et de quelle nécessité est-il donc, je le demande, qu'une femme jouisse quand nous jouissons ?
Une lecture de Justine ou les malheurs de la vertu, lue par Valérie Lang. Bonjour Florence Lottery.
Bonjour.
Ce n'est peut-être pas ce genre d'extrait qui a fait de Sade un ami des féministes, peut-être bien au contraire. On a parfois l'impression que finalement, pour Sade, les femmes sont quantité négligeable. C'est en tout cas ce qu'on entend, ce qu'on comprend dans cet extrait-là. Dans d'autres extraits, on va le voir, on peut imaginer le contraire. C'est l'objet de cette première partie qu'on va détailler avec vous. Peut-être un point général pour commencer, Florence Lottery, sur cette question.
Alors, vous avez commencé en disant « pour Sade ». Mais dans l'extrait qu'on vient d'entendre, comme dans d'autres que vous auriez pu choisir, l'histoire de Juliette, les grands discours de Gernande, par exemple, qui est un antiféministe notoire dans l'histoire de Juliette, ce sont des discours qui sont prêtés à un certain type d'énonciateur et qui n'engagent pas nécessairement l'ensemble de l'économie du texte.
Voilà. C'est l'éternelle différence qu'il faut, dites-vous, continuer de faire entre le personnage, le narrateur et l'auteur.
Oui, absolument. Et c'est d'autant plus important dans le cas de Sade, puisque depuis le début de votre série d'émissions, vous avez commencé par la biographie. S'il y a quelque chose qui pèse sur Sade, c'est bien la manière dont se trouve nouée sa vie, et plus exactement les jugements qu'on porte sur sa vie, et l'œuvre. Et une manière de desserrer les choses, c'est une manière parmi d'autres, c'est de faire cette distinction quand même.
Donc on a assimilé les propos des personnages de Sade avec lui-même, et puis aussi on le lit peut-être toujours à l'aune du contemporain, de notre contemporain, de notre actualité. Est-ce que pour vous, ça, c'est aussi une erreur récurrente ?
Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, en tout cas, c'est un débat. C'est un débat depuis longtemps, depuis les premières lectures féministes de Sade, la femme sadienne d'Angela Carter par exemple, jusqu'à notre contemporanéité même la plus proche, puisqu'il y a aujourd'hui des jeunes chercheurs qui s'interrogent en féministes et en militants sur la possibilité de relire l'ensemble des œuvres du XVIIIe siècle, et en particulier Sade, du point de vue de l'interrogation sur la violence sexuelle. Mmh. Et dans la violence sexuelle, le rapport des sexes et la symétrie des sexes que ça engage. Alors c'est une question qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas dire à des étudiants, non, ça n'existe pas. On ne peut pas nier la centralité phallique chez Sade, ce serait complètement absurde. Elle est là partout. Le fait est qu'elle peut se déplacer. Là-dessus, je serais assez d'accord avec Éric Marty, qui suggère une lecture, justement à partir de la figure de Justine, comme étant une manière de décaler régulièrement la position phallique. Et c'est là que les femmes peuvent réintervenir, mais dans une autre place, justement, qui n'est pas la place dans le groupe femmes opprimées, mais qui est plutôt une place d'émancipation possible, dans des scénarios qui le permettent.
Alors vous allez nous expliquer tout ça, parce que c'est pas forcément très intuitif ni très facile à comprendre. Votre ouvrage, Le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle, est un ouvrage dans lequel vous abordez évidemment le cas de Sade, mais plus largement vous vous intéressez à des femmes philosophes, des femmes qui dissertent allègrement sur tous les grands sujets de l'humanité. Sade fait dire à Saint-Ange, par exemple, dans La philosophie dans le boudoir, que les courtisanes sont les seules véritablement philosophes. Qu'est-ce que ça signifie dans sa bouche, ou plutôt sous sa plume ?
Alors, ça signifie que, d'abord, derrière ça, il y a un modèle, qui est le roman de la courtisane, que Sade n'invente pas, dans lequel il se situe. Il y a plein de romans au XVIIIe siècle dans lesquels des courtisanes sont mises en scène comme ayant une capacité à philosopher. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en dehors de l'économie générale des sexes. Mmh. Elles sont marginales, et c'est une marginalité qui permet en plus une autonomie et une autonomie économique. Mmh. Alors, la Juliette de Sade va, si vous voulez, radicaliser cette position. Non seulement elle est complètement indépendante économiquement, mais c'est précisément son prix économique qui lui permet à tout moment de surenchérir sur la domination de sa position par rapport aux hommes.
Donc vous vous dites que la courtisane chez Sade a choisi d'être courtisane, elle a choisi sa condition.
Oui, là-dessus je serais assez proche du coup de la lecture de Simone de Beauvoir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'émancipation qui passe effectivement par la sortie de l'économie sexuelle classique. Et la courtisane, d'autant qu'elle est dans l'histoire de Juliette, en plus une tribade. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se situe pas dans sa sexualité du côté des hommes. Bien sûr, elle se fait payer pour ça. Mais le fond de son indépendance, c'est le fait qu'elle soit une courtisane philosophe tribade.
Mmh. Alors, pourquoi les femmes philosophent-elles chez Sade le font-elles pour s'attaquer précisément à un homme qui serait un homme tout puissant, ce qui là encore est très contre-intuitif dans le cas de Sade, de ses écrits.
Alors, ça c'est vraiment une question difficile. Les femmes qui philosophent se tiennent aussi du côté des hommes qui dominent. Et elles prennent leur part d'un pouvoir qui est aussi théorisé et pratiqué par des hommes, qu'elles reconnaissent comme dominants.
Donc il y a une pensée de la domination homme-femme dans ses écrits-là.
Il y a une pensée de la domination tout court chez Sade. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est réversible. Vous avez des situations. Il n'y a pas chez Sade, on ne peut pas, quand on a lu tout l'œuvre de Sade, dire qu'il y a une analogie complète et totale entre femme victime, homme bourreau, homme philosophe, femme écoutante passive. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et lui-même pratique des réversions de scénarios sans arrêt. Il y a des choses qu'on peut lire dans La philosophie dans le boudoir, dans l'histoire de Juliette, qui mettent la femme en position dominante dans des conditions qui vont se retourner complètement contre la femme elle-même dans d'autres textes. Donc c'est très difficile de considérer que il y a une pensée de Sade sur la domination masculine.
Alors comment penser Sade justement ? Comment tirer tout de même ? On a envie de conclure sur ce que dit Sade ou ce que veut faire Sade. Ça vous paraît pas possible ?
Non, je crois que c'est difficile de conclure. Il me semble qu'il propose des positions telles dans ses textes, tellement complexes, et pas seulement complexes du point de vue des rapports des hommes et des femmes, mais du point de vue du féminin et du masculin, des identités, que c'est très difficile de conclure à la prédilection pour un scénario plutôt que pour un autre. Mmh. Sauf quantitativement. Quantitativement, oui. Il y a le scénario de domination des hommes, des femmes par les hommes, j'ai failli faire un lapsus, qui est répétitif, qui est plus insistant, si vous voulez. Mais ce qui est troublant, ce n'est pas seulement la quantité, c'est la qualité.
Alors, on va écouter, avant de poursuivre cette conversation, au sujet du personnage de Juliette, l'écrivaine Annie Lebrun.
Le fait que Sade ait choisi une figure féminine pour incarner la plus grande liberté, l'idée qu'il a, lui, de la plus grande liberté, que ça n'est pas du tout par hasard. C'est-à-dire que je pense que Sade a précisément choisi, avec la femme qui est Juliette, le personnage qui, au départ, a le plus d'handicap. C'est-à-dire, en prenant une figure féminine, c'est un personnage sur qui pèse non seulement, comme sur chaque être, toutes les contingences sociales, morales, religieuses, économiques même, mais en plus où il y a cette fatalité de la nature qui fait que la femme est encore beaucoup plus assujettie à la nature que l'homme ne l'est, ne serait-ce que par la maternité. Et ce qu'il y a de fascinant dans la façon dont Sade construit le personnage de Juliette, c'est bien de montrer comment Juliette gagne sa liberté, et elle la gagne en se débarrassant, en se dépouillant même, je dirais, de tous les rôles, les uns après les autres, électivement de tous les rôles associés à la féminité.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Florence Lottery, sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, j'adhère tout à fait à la position d'Annie Lebrun. Je crois que Sade a effectivement construit un personnage qui se délie de tout. Toute l'odyssée sanglante de Juliette, elle-même, ça peut s'interpréter comme une manière de ne rien laisser derrière soi. Elle brûle tout derrière elle. Elle commence d'ailleurs sa carrière de manière tout à fait classique dans un roman comme celui-là. Je pense à La vie de Marianne, des choses comme ça. Elle est seule, elle n'a pas de parents, elles sont orphelines, Justine et Juliette. Mmh. Mais elle fait de son orphelinat quelque chose d'actif. Et en faisant quelque chose d'actif, elle a une chance quand même au milieu de tout ça, c'est qu'elle a une éducatrice première.
Elle
en a même plusieurs. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire de Juliette, c'est que la base continue, c'est la chaîne d'éducation des femmes, une chaîne tout à fait séparatiste, comme dirait Monique Wittig, d'Amazon, finalement, qui se construisent entre elles, par elles-mêmes, autour, bien sûr, de communautés qui peuvent être des communautés masculines, mais dans lesquelles, finalement, le principe féminin va continuer à avancer jusqu'au bout, parce qu'à la fin, Juliette est dans une espèce, allez, on va oser, le trouble philosophique, mmh. avec des positions qui sont quand même très curieuses. Noirceuil, c'est quoi? C'est le sodomite radical absolu. La Durand, c'est une magicienne tribade absolue, qui, par ailleurs, a un organe génital phallique. Elle a un clitoris dont je ne me souviens même plus des mensurations, mais c'est tout à fait de l'ordre du magique.
On dit qu'il est énorme.
Voilà, on dit qu'il est énorme. Et puis Juliette elle-même qui est la grande tribade. Donc toutes ces positions-là ne peuvent exister en communauté que parce qu'elles sont absolument aux extrêmes des possibilités sexuelles et des identités de genre. Mmh. Et de ce fait, Juliette a réussi une forme de déliaison de toutes les communautés traditionnelles dans lesquelles elle aurait pu se trouver enfermée. Il faut rappeler aussi qu'elle tue sa propre fille, habillée en homme.
C'est important ça que...
C'est intéressant.
Elle soit habillée en homme.
Elle est travestie en homme pour assassiner sa propre fille, qui d'ailleurs s'appelle Marianne. Mmh. Donc là, je crois qu'il y a un principe souverain. Ça veut dire que... ça pourrait vouloir dire... Pour pratiquer une transgression aussi forte, il faut être du côté du masculin. Mais ça peut vouloir
dire... Donc une critique implicite de la domination masculine ?
Peut-être. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Je dirais plutôt, compte tenu de l'ensemble des travestissements, des changements de rôle, des changements de position dans ce roman, du principe de mobilité qui est celui de ce roman, que c'est une des manières de révéler qu'on peut changer de position sexuée à tout moment. Mmh. Et peut-être, en effet, de performer, comme on dit depuis Judith Butler, de performer une identité masculine au moment où on est la matricide.
Donc vous nous expliquez, Florence Lottery, que Judith Butler est une disciple de Sade.
Ça, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si Judith Butler est une disciple de Sade. En tout cas, les instruments de pensée que Judith Butler a pu proposer peuvent parfois permettre de construire une lecture intéressante de Sade.
Mmh. Pour continuer sur ce personnage de Juliette, il y a plusieurs exemples qui montrent que c'est un personnage de femme forte. Par exemple, elle est reçue par le roi de Sardaigne à un moment donné, elle lui assène une espèce de dissertation patriotique. Donc là, c'est la peinture d'une femme qui est capable d'être une intellectuelle aussi, au vol, d'avoir une vision géostratégique, géopolitique. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? C'est une femme forte qui s'exprime ici ?
Oui, alors on peut y voir beaucoup de choses, notamment si on situe le roman dans son contexte historique, le fait que Sade a tenu compte du contexte révolutionnaire. Le roman, c'est 1801. Et Juliette traverse l'Europe, et elle traverse l'Europe des despotes. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y a Brisatesta qui fait ça aussi, le bandit. Et en traversant l'Europe des despotes, elle prend en effet la position à la fois de la courtisane d'ancien régime qui fuit la France, parce qu'elle n'a pas été assez libertine à un moment donné, elle a refusé, elle a été faible, elle a refusé de s'associer à un projet de dépopulation de la France avec le ministre Saint-Fond. Donc elle est poursuivie pour faiblesse philosophique. Oui. Mais en traversant la frontière, réversibilité, elle change de rôle et elle devient cette révolutionnaire qui peut en effet apostropher et interpeller le despote. Et là, Sade s'empare de toute la rhétorique révolutionnaire, patriotique, des années révolutionnaires. Et donc il peut faire de Juliette ce possible révolutionnaire en lien direct avec sa destinée de déliaison originelle.
En vain offrait-on à mes regards tranquilles tout ce qu'on imaginait de plus propre à toucher ma sensibilité. Des mers éplorées, des enfants nus, des spectres dévorés par la faim. Rien ne m'ébranlait. Rien ne sortait mon âme de son assiette ordinaire et l'on n'obtenait jamais de moi que des refus. Ce fut alors qu'en me rendant compte de mes sensations, j'éprouvai, ainsi que me l'avaient annoncé mes instituteurs, au lieu du sentiment pénible de la pitié, une certaine commotion produite par le mal que je croyais faire en rejetant ces malheureux, et qui fit circuler dans mes nerfs une flamme à peu près semblable à celle qui nous brûle chaque fois que nous brisons un frein ou que nous subjuguons un préjugé. Je conçus dès lors combien il pouvait devenir voluptueux de mettre ces principes en action. Et ce fut de ce moment que je sentis bien qu'aussitôt que le spectacle de l'infortune causée par le sort pouvait être d'une sensualité si parfaite sur des âmes disposées ou préparées par des principes comme ceux que l'on m'inculquait, le spectacle de l'infortune causée par soi-même devait améliorer cette jouissance. Et comme vous savez que ma tête va toujours bien loin, vous n'imaginez pas ce que je conçus de possible et de délicieux sur cela.
Lecture de Juliette ou les prospérités du vice par cette fois Maud Rayer, les spectacles de l'infortune causée par... Alors je n'ai plus la citation là tout de suite qu'on vient d'entendre, je voulais vous la faire commenter, c'est pas grave. C'est la liberté contre les préjugés qui est là soulignée dans cet extrait.
Oui, et parmi les préjugés, le premier d'entre eux, c'est la pitié ici. Mmh. La pitié dont Rousseau proclamait qu'elle était naturelle et qui, pour Sade et pour ses grands libertins, n'est pas naturelle, mais est bien une construction sociale et culturelle.
Alors quel est le problème avec la pitié ?
Ben, le problème avec la pitié, c'est que votre liberté est aliénée par le sentiment de l'autre. Mmh. Il faut pouvoir s'arracher à l'intérêt pour l'autre afin de se recentrer intégralement sur l'intérêt pour et de soi-même. Mmh. C'est à cette condition, qui est une forme d'ascèse hein, pour les libertins, qu'on peut vraiment penser et agir.
Et en même temps, qui est un égoïsme.
Bien sûr, c'est un égoïsme revendiqué. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est une femme qui tient ses propos et que chez Sade, c'est un marqueur premier de l'identité philosophique que de savoir être imperméable à la pitié et aux autres.
C'est une femme qui tient ses propos sous la plume d'un homme. Un homme peut faire, oui. Peut faire dire à son personnage féminin ce qu'il veut.
Bien sûr, bien sûr. Mais je rejoins ici la question première de d'Annie Lebrun, qui était celle de l'esprit de l'extrait antécédent. Hein. Pourquoi Juliette est-elle une femme dans ces conditions ? C'est pas du tout une construction hasardeuse de la part de Sade, hein, de faire porter ça à du féminin.
Ce sont des principes. Il peut se cacher derrière un personnage féminin,
oui,
pour se dédouaner.
Il peut également le faire. Pour se dédouaner ou pour s'identifier, comme avec Justine, hein, où il y a vraiment ça, pour le coup, et au contraire, chez Justine, une demande de prise en compte de la pitié comme un vrai principe aussi. Il ne faut pas oublier que Justine est le double de Juliette, y compris du point de vue d'une identité philosophique possible. Hein. Donc là aussi, vous voyez, il y a une réversibilité des deux. Hein. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que Juliette, elle l'a appris de Delbene, hein. Sa première institutrice, la première chose que lui apprend Delbene, c'est que quand elle n'a plus intérêt à la garder avec elle, elle la met à la rue.
Donc et Delbene, c'est l'une des trois
femmes. C'est l'une des trois femmes
qui va enseigner finalement.
Voilà, hein, qui est une supérieure de couvent un peu particulière et qui enseigne. La première chose qu'elle enseigne à Juliette, c'est ça : se défaire de tout individu qui n'est pas directement en phase avec notre intérêt propre. Mmh. Et la pitié est un écran de ce point de vue. C'est une médiation vers l'autre. Qui doit être absolument supprimée si on veut repartir sur des bases philosophiques vraiment saines.
Et c'est là où on retrouve aussi le Sade totalement athée.
Oui,
puisque la pitié, absolument. C'est bien un sentiment chrétien.
Oui, bien sûr, il y a ça. Et dans cet athéisme, il y a la part du matérialisme, puisque dans l'extrait qu'on a entendu, il y a aussi tout le vocabulaire matérialiste. Savoir mesurer l'impact sur les nerfs, sur le choc voluptueux des atomes, comme dit Dolmansé dans La philosophie dans le boudoir, savoir mesurer ça sur soi, c'est avoir la preuve par le corps, et non pas par la transcendance, qui n'existe pas, que le bien se trouve là, le souverain bien se trouve là, et pas ailleurs.
Alors, on lit aussi dans votre livre un rapport plus général de Sade avec l'esprit de son temps et vous expliquez qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a peut-être peur aussi des femmes et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut le lire. Alors pourquoi a-t-on peur des femmes, Florence Lautry, à ce moment-là de l'histoire, selon vous ?
Alors, c'est selon moi et c'est selon beaucoup de gens, hein, ça je l'ai pas du tout inventé, la période révolutionnaire, Michel Delon a écrit là-dessus beaucoup, la période révolutionnaire est une période dans laquelle il y a une scène publique où apparaissent des figures féminines dans l'espace politique, avec des revendications, et sous une forme qui est perçue comme une forme essentiellement violente. Donc une possibilité d'hystérisation dangereuse du politique par les femmes. Donc on ferme les clubs en 93, il y a une fermeture politique et civique quasi totale, hein, au beau milieu de la Révolution, qui instruit une peur des femmes qui va ensuite se manifester dans d'autres champs de discours, chez les médecins, et chez les moralistes, et chez un certain nombre d'écrivains, et être même incorporée chez des femmes, hein, qui peuvent répercuter ça.
Alors la femme qu'on n'aime pas, c'est la femme savante, c'est la femme qui parle trop haut, trop fort,
oui.
Ou alors c'est l'image de la femme.
Disons qu'ici, on a il y a une conjonction malheureuse, je dirais, entre un imaginaire plus ancien, effectivement celui de la femme savante, celle qui parle un petit peu fort, un peu trop, qui peut être même ridicule pour ça, hein, donc un modèle qui vient en gros de Molière, et puis la perspective, les circonstances de la Révolution. Et puis tout cet imaginaire des furies de guillotine, voilà, des tricoteuses, hein, qui ont été qui a été bien analysé par Dominique Godinot, et cette conjonction des deux finalement produit un nouvel imaginaire antiféministe.
Et la médecine, si on peut appeler ça médecine, parce qu'on est quand même au début hein, de la médecine à cette époque-là, va aussi dans ce sens, et je pense en particulier, en vous lisant, à Cabanis.
Oui.
Est-ce que vous pouvez développer ce point-là?
Alors Cabanis appartient à, en effet, une tradition médicale naissante qui est pas née en 1800, qui est née déjà dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'une médecine matérialiste. Ce sont des gens qui sont du côté athée même. Hein, c'est pas incompatible avec une position par ailleurs qu'on pourrait trouver conservatrice, et qui défendent le modèle que Thomas Laqueur a appelé unisexe. L'autre a appelé au contraire de l'incommensurabilité. Il y a deux modèles, dit-il, dans l'histoire des découvertes de l'anatomie et des discours médicaux depuis le XVIe siècle. Il y a un modèle unisexe, celui qui fait dire que les organes génitaux féminins ne sont que la manifestation intériorisée des organes génitaux masculins, et on voit par exemple que l'utérus et les ovaires constitueraient comme un sexe masculin rentré, hein, ça c'est le modèle unisexe qui repose sur une analogie donc, et qu'on peut retrouver chez Sade autour de cette image récurrente et très difficile à supporter hein, par ailleurs, du vide, du sexe féminin comme vide, et d'un vide insupportable, tellement insupportable qu'il faudrait même le couturer, comme ça arrive dans la philosophie, dans le boudoir. Et puis il y a le modèle de l'incommensurabilité où la femme est foncièrement différente de l'homme. Et si elle l'est anatomiquement, c'est parce que la nature dit quelque chose de sa destination profonde, qui est la maternité, qui est la sensibilité, qui est la mollesse de la fibre, qui est donc la fragilité, la vulnérabilité. Et c'est ce qui fait qu'elle est incompétente à entrer dans les affaires publiques.
Donc c'est une justification de la domination masculine.
Cette fois, on peut le dire
par ce qu'on appelle la médecine.
Ouais. Là, on peut vraiment le dire comme ça.
Et vous dites que ça s'inscrit en faux contre cette vision-là.
Ben oui, finalement, mais c'est tout aussi compliqué. Il n'y a pas chez Sade, en effet, ce séparatisme anatomique, même pas dans le vocabulaire, pour les raisons que j'ai déjà dites tout à l'heure, c'est-à-dire que Sade est extrêmement sensible aux possibilités qu'on peut déployer des changements de position et des changements d'identité dans les scénarios, soit de rapports philosophiques, soit de rapports érotiques, et de fait des deux, puisque ça se confond chez lui.
Pour terminer, puisque vous avez écrit pour le magazine littéraire, il y a quelques années, un article intitulé « Rire avec Sade », si je me souviens bien, Simone de Beauvoir...
Mourir de rire.
Mourir de rire, voilà. Simone de Beauvoir, vous le citez dans cet article, a parlé du sombre humour de Sade. Est-ce qu'elle retenait d'abord l'humour, ou est-ce qu'elle retenait d'abord le côté sombre?
Mais je crois les deux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Simone de Beauvoir, comme d'habitude, a eu une lecture fine, et essayant de rendre justice à Sade, hein, une lecture très équilibrée. Il y a un de mes collègues qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humour noir des Lumières », qui est Éric Le Borgne, et qui accorde à Sade cette possibilité de l'humour noir, du galgen ou mort. Et il y a quelque chose de cet ordre chez Sade. Mais il y a autre chose, il y a tout simplement le fait qu'on peut aussi lire tout Sade, donc aussi la part comique de son œuvre, en liaison étroite avec la part sombre. C'est la lecture que propose Stéphanie Genant, ça, qui est très productive et qui nous permet de relire des textes aussi terribles hein, que l'histoire de Juliette ou que les 120 journées, même les 120 journées, de les relire à la lumière de cette possibilité du rire.
Voilà, Stéphanie Genant qui était notre invitée lundi dernier. Blague un peu gauloise que vous citez dans cet article. Ne faites donc pas les trois virgules d'Olmancé au milieu d'un acte d'amour. Bon, ça c'était simplement pour terminer sur une note un peu trop grasse peut-être.
Non, mais faut pas exclure la gauloiserie de Sade non plus.
Merci beaucoup Florence Lottery. Je rappelle votre ouvrage « Le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle » paru en 2013 aux éditions Classique Garnier. Tout de suite, on trouve la chronique d'Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca du nouveau magazine littéraire pour En Compagnie des Revues. Bonjour à vous Alexis.
Bonjour Mathieu.
Un petit mot peut-être sur Sade avant de commencer.
Oui, je serais bien en peine de m'exprimer sur Sade avec la précision que l'on vient d'entendre. Toutefois, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il y a quelques années, il y a environ 2 ans, nous avons fait un dossier sur l'Apocalypse. Et on a été assez surpris de voir que le nom de l'auteur classique qui revenait le plus fréquemment parmi les contributions qu'on avait demandées à divers philosophes notamment, c'était le nom de Sade. Et en effet, et je me souviens que lorsque j'avais lu La Route de l'écrivain américain Cormac McCarthy, j'avais été assez frappé par le caractère sadien des hordes que ce père et ce fils qui traversent une Amérique dévastée par l'apocalypse croisent. On a l'impression en effet que nous sommes dans un monde sans pitié et que d'ailleurs ce père et ce fils incarnent en quelque sorte le reste des sentiments humains et le reste de la pitié, mais que par ailleurs, les hommes ont été réduits à leurs seuls appétits, et que donc, le seul bien pour eux, c'est la satisfaction d'abord de leur faim, et ensuite, ce qu'on voit un petit peu de façon elliptique, de leur sexualité.
Florence Latrice, je vous vois hocher la tête.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. J'ajouterais toutefois qu'en situation apocalyptique, c'est une sorte de nécessité.
Oui, probablement, en effet.
Alors que c'est une construction parfaitement méditée chez les libertins sadiens.
C'est vrai.
Ils n'ont même pas besoin de l'apocalypse.
Voilà, ils n'ont pas besoin de l'apocalypse. L'apocalypse nous ramène en fait à ce qui est peut-être un état élémentaire de l'homme. Et cet état élémentaire est sadien.
Alors Alexis, vous venez nous parler aujourd'hui de la figure d'Oscar Wilde, auquel le nouveau magazine littéraire consacre un long dossier.
Voilà. Alors, nous consacrons un dossier à Oscar Wilde. Alors, il ne s'agit pas tant de parler de l'Oscar Wilde premier, ce brillant causeur et écrivain qui a été adulé de son vivant, mais plutôt de l'Oscar Wilde dernier, celui qui fut réprouvé par la société victorienne à la suite d'un procès absolument retentissant et qui mourut en 1900 dans un hôtel parisien et garda néanmoins son esprit jusqu'au bout, puisque sa dernière phrase qui est célèbre fut « Ce papier peint est trop laid, l'un de nous deux doit disparaître ». Et voilà, ce dossier alors s'intéresse à la spécificité de l'art de Wilde et à la primauté qu'il donnait à l'esthétisme. Ça commence par un grand article de notre rédacteur en chef, Hervé Aubron, qui part du film qu'a fait récemment l'acteur Rupert Everett, qui s'appelle The Happy Prince, d'après un conte d'Oscar Wilde, enfin, qui tire son titre d'un conte d'Oscar Wilde. Et Hervé Aubron, en fait, montre que Wilde, bien bon esthète, éprouvait la tentation de faire primer l'art sur la vie. Dans ses œuvres, bien sûr, où le brio a tendance à écraser parfois d'autres choses, et dans sa vie, puisqu'il a construit sa vie, sa personnalité, il les a stylisées pour devenir une œuvre d'art. Et on a ainsi des témoignages sidérés, notamment de Yeats, le poète, qui nous dit « Jamais, encore, je n'avais entendu un homme parler avec des phrases si parfaites, comme s'il avait passé une nuit de labeur à les écrire, et cependant toutes spontanées. » Et en fait, pour Hervé Aubron, Wilde a été puni autant pour son art que par son art, et effectivement, lorsqu'on examine les circonstances de cette perte, il est difficile de ne pas vraiment lui donner raison.
Alors votre dossier s'intéresse en particulier à une année, c'est l'année 1895.
Voilà, c'est l'année de bascule dans la vie de Wilde. Ça commence lorsqu'il reçoit une carte du marquis de Queensberry, qui était le père de son amant, Lord Alfred Douglas, et cette carte le traitait de somnodomite, je cite. Et au lieu de le laisser dire, Wilde, poussé par Lord Alfred Douglas, en vint à commettre cet acte qui, avec le recul, nous paraît complètement suicidaire. Wilde a porté plainte contre Queensberry pour diffamation.
Oui, à quoi pensait-il ?
Voilà, et non seulement il a perdu son procès, mais en plus, comme il a perdu son procès pour diffamation, il a été condamné pour homosexualité. Et cette condamnation, c'était 2 ans de travaux forcés. Il faut imaginer Wilde aux travaux forcés, vraiment. Et on peut se demander que diable Wilde est-il allé faire dans cette galère. Et en fait, on le comprend un peu mieux lorsqu'on se replonge dans le contexte de l'époque. Il faut voir qu'en 1895, Wilde était vraiment au sommet de sa gloire. Ses pièces de théâtre étaient adulées par la société britannique. Il venait d'obtenir triomphe sur triomphe, notamment avec L'importance d'être constant et L'éventail de Lady Windermere. Donc il était sans doute très confiant. Et puis il y a une autre raison qui apparaît dans les minutes du procès, qui paraissent d'ailleurs pour la première fois en édition intégrale. Eh bien, Wilde se jugeait peut-être trop brillant pour perdre, et c'est ce qu'il a perdu. En effet, lorsqu'on regarde de près ces minutes du procès qui viennent de paraître, eh bien on voit un Wilde étincelant qui ridiculise avec beaucoup trop de facilité son contradicteur, qui est l'avocat Edward Carson, qui défendait Queensberry. Et comme on était en relation avec l'héritier de Wilde, Mervyn Holland, eh bien on a pu publier de savoir savoureux extrait du procès. Voilà.
Alors vous allez nous en lire précisément.
Oh, écoutez, je vous en lire un. Voilà, c'est un interview au moment où Edward Carson, qui a donc lu Dorian Gray, essaie de prouver l'homosexualité de Wilde par le texte de Dorian Gray. Et il commence par citer cette fameuse déclaration dans le portrait de Dorian Gray, cette déclaration du peintre à son modèle. Le peintre, c'est Basil Hallward, et le modèle, c'est Dorian Gray. Et Basil Hallward dit « Il est vrai que je t'ai chéri avec bien plus de douceur, de sentiment qu'un homme accorde habituellement à un ami. Il se trouve que je n'ai jamais aimé une femme, peut-être parce que j'en ai jamais eu le temps. Je dois admettre que je t'ai follement adoré, de façon extravagante. » Alors Edward Carson lit ce passage, se tourne vers Wilde et lui demande « Je veux une réponse à cette simple question. Avez-vous jamais éprouvé ce sentiment de folle adoration envers une belle personne de sexe masculin plus jeune que vous de plusieurs années ?» Mm-hmm. Et Wilde répond « Je n'ai jamais éprouvé d'adoration envers quiconque, sinon moi-même. » Alors évidemment, tout le monde rigole, mais Carson insiste « Vous n'avez jamais éprouvé ce sentiment que vous décrivez, donc ?» Non. C'est un emprunt à Shakespeare, je regrette de le dire. À Shakespeare, s'insurge Carson. Oui, au sonnet de Shakespeare. Je t'ai follement adoré, demande Carson. Oui. Et Carson change son fusil d'épaule. Avez-vous jamais adoré de façon extravagante? Et Wilde fait semblant de ne pas comprendre. Vous voulez dire financièrement, financièrement parlant ou émotionnellement? Financièrement. Pensez-vous que nous parlions finance ici? Et Wilde répond, je ne sais pas de quoi vous parlez. Carson insiste, vraiment, et Wilde lui donne une leçon. Vous devez poser des questions claires.
Ben voilà, un procès qui a dû être passionnant
un
de voir.
Un procès qui devait être comme une pièce de théâtre, en effet.
Mais qui a beaucoup coûté.
Que son principal protagoniste a perdu.
Ah, Wilde. Merci beaucoup, Alexis. On trouve votre signature dans les colonnes du Nouveau Magazine Littéraire. Toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sur France Culture. Au troisième jour de notre série consacrée au marquis de Sade, nous parlons de lui en rapport avec les femmes et à présent en rapport avec sa femme à lui. Nous sommes avec Cécile Guilbert qui nous a rejoint. Elle a édité avec Pierre Leroy le volume intitulé 50 lettres du marquis de Sade à sa femme aux éditions Flammarion en 2009.
Quand recevrai-je une lettre de toi? Quand reverrai-je ce style naïf et doux, image de l'âme la plus tendre et la plus sensible? Quand reverrai-je, au lieu de cet échafaudage alambiqué d'un sentiment qui n'est pas le tien, ces phrases délicates et sincères auxquelles je ne me tromperai jamais? Traité de délit et de peine. J'ai une envie de vous grondez, étonnante, cette manière dont vous enfilez, qui ne dit mot est affreuse, et en vérité passe tout ce qu'on peut imaginer avec vous. On ne sait jamais ce qu'on peut croire, et cela est atroce. En réfléchissant, je vois que ça n'est pas étonnant. Vous vous êtes fermé avec moi depuis le temps que nous ne sommes plus ensemble. Cependant, je vous l'avoue, je ne vois point de motif à votre conduite, et vous êtes la plus singulière des femmes. Vous imaginez, vous, que je vous pardonnerai tout cela? Vous pensez bien que je dois être très ulcéré de votre conduite à Dieu. Je suis ce soir d'écrire en train comme une bête, comme un âne, comme un étalon espagnol. Ainsi, je vous salue, venez me voir, je vous en prie, venez quand vous voudrez. Vous me faites toujours plaisir et honneur. Et vous pouvez être sûr que malgré tout le chagrin que vous me donnez, vous serez bien baisé. Oui, baisé de toute mon âme.
Une lettre à double sens de Sade à sa femme en 1778, lue par Daniel Mesguich. Bonjour Cécile Guilbert.
Bonjour.
Vous qui connaissez bien Sade, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est dit dans cette première partie d'émission? Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose ou nuancer ou donner votre opinion?
Ce que je pense, c'est que en fait, contrairement à ce qui est raconté souvent sur Sade, c'est que finalement, il s'inscrit bien dans le fond de ce que j'aime, moi, en tout cas dans la littérature. Je parle pas en savante, si vous voulez, je parle en quelqu'un qui aime la littérature du XVIIIe siècle. Et les romans libertins, c'est qu'en fait, il s'inscrit dans ce courant général, même s'il a des positions plus radicales et une singularité littéraire tout à fait spécifique, parce que en fait, il est intéressé par l'émancipation des femmes aussi, comme tous les autres.
C'est votre conviction.
Oui, c'est-à-dire que c'est la grande question au XVIIIe siècle qui est si passionnante, de l'éducation des femmes, et qui court en fait partout, qui court de Boyer d'Argens à Mirabeau, en passant par et jusqu'à Laclos, l'éducation des femmes, qu'on a relu d'ailleurs ces temps-ci, justement à la lumière des événements MeToo, tout ça. Donc à ce point-là, qui est très important, qui en fait un vrai philosophe de son temps, dans ce courant. Et puis il y a, en fait, je pense que comme tous les vrais libertins, et c'est là où c'est le plus réussi en général dans les romans, c'est qu'en fait, dans la vie sans doute, hein, plus que dans les livres évidemment, mais il cherche en fait un rapport d'égalité avec les femmes, un rapport de connivence libertine. Et c'est pour ça que dans sa biographie, c'est si intéressant de voir quand il est tombé amoureux et qui il a vraiment aimé dans sa vie. Parce que justement, à chaque fois, il me semble, les deux grandes figures, sa fiancée avant de se marier avec René Pélagie, cette pauvre femme, qui est aussi héroïque dans son genre, mais cette première fiancée avec qui on lui fait rompre ses fiançailles pour épouser René Pélagie, et sa belle-sœur, la femme, c'est des femmes qu'il a vraiment aimées, et d'après ce qu'il écrit, d'après ce qu'il en dit, d'après ce qu'on a retrouvé dans les lettres, qu'est-ce qui lui plaît chez ces femmes? Eh ben, c'est qu'elles sont hardies, libres, à la fois éduquées, et donc, je pense que là, il pense, outre qu'elles sont sans doute séduisantes physiquement, il va pouvoir peut-être avoir avec elles un rapport d'égalité connivante. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant.
Mais du coup, dans la relation interpersonnelle, mais en revanche, il n'y a pas de pensée qui irait contre la domination masculine chez Sade. Autant lui, et on le comprend, préfère parler d'égal à égal avec une femme, autant, enfin pour l'aimer, autant il ne va pas théoriser le dissemblable en termes de pouvoir qu'il y a entre les sexes.
Oui, bien sûr qu'il théorise une forme de domination masculine, mais il me semble que dans l'amour et dans le sexe, finalement, on peut passer par toutes sortes de positions et être à la fois homme et femme, chacun pour chaque sexe. Donc c'est ça, c'est cette circularité que je trouve intéressante.
Alors vous avez donc édité ces 50 lettres du Marquis de Sade à sa femme. Elles n'y sont pas toutes, hein, puisque
non.
En 1949, Gilbert Lely avait lui-même publié 250 lettres du Marquis de Sade à sa femme. Vous avez donc fait un choix.
Non, en fait, si vous voulez, comme j'ai fait ce livre avec Pierre Leroy et que Pierre Leroy est le plus grand collectionneur actuel de documents, autographes, manuscrits, lettres, objets liés à l'univers de Sade, en fait, nous avons travaillé sur le fonds qu'il possède. Et il en a racheté au fil des années, il s'est défait d'une partie de sa collection pour racheter le plus possible de lettres, y compris à la famille. Donc elles n'y sont pas toutes. Mais il y a une chose fantastique, c'est que au début des années 2000, en 2003 je crois, Pierre Leroy a retrouvé plein de lettres, hein, alors pas forcément à sa femme, mais c'est grâce à lui qu'on a retrouvé aussi toutes ces fameuses lettres de la belle-sœur justement, qui prouvent, alors qu'on n'avait que des éléments peu fiables, qui prouvent la passion véritable qui existait entre Sade et sa belle-sœur. Donc nous avons travaillé avec Pierre Leroy sur ce qu'il possède. Et il y a effectivement d'autres lettres qui ne sont pas dans sa collection, mais qu'on peut lire par ailleurs, il y a d'autres éditions.
Donc sa belle-sœur, c'est Anne Prosper de Launay. Il faut peut-être raconter un petit peu l'histoire. Alors là aussi, c'est un trouble, hein, plus ou moins, entre Sade, sa femme et sa belle-sœur.
Oui, alors bon, on peut revenir un petit peu sur le mariage de Sade. Bon, il rêvait de faire un mariage d'amour, il fait finalement un mariage parce que son père est très cupide et que sa belle-mère est très snob, en fait, d'une certaine façon, on peut résumer ça comme ça, puisque lui, le père, cherche une dot pour son fils, parce qu'il a lui-même des dettes. Et puis, la fameuse présidente de Montreuil, eh ben, elle veut c'est une bourgeoisie qui a une particule parce qu'elle a acheté une charge, mais qui cherche à s'allier une maison aristocratique. Donc Sade est victime de ça, donc il épouse René Pélagie, qui n'est pas une vilaine femme, mais bon, qui est même assez bien éduquée, mais qui lui plaît pas, et en plus il était fiancé à une femme qu'il aimait. Donc très vite, ce mariage se met à être une épreuve pour René Pélagie, mais justement comme...
Parce que Sade a une double vie, du coup, très rapidement.
Parce que très vite, les phrases commencent, je sais pas, quelques mois après son mariage, à l'affaire de la rue Mouffetard, Jeanne Testard, c'est quelques mois plus tard. Et donc, elle l'aime, en fait, c'est ça. Et elle l'aime vraiment d'amour. Et puis, il l'a initié, la sexualité. Et puis, elle a une certaine complaisance avec lui. Bon, et finalement, elle sera toute sa vie dans une position à la fois sacrificielle et héroïque. Parce qu'elle a une personnalité très curieuse. Elle est à la fois soumise, elle fait tout ce qu'il veut. Bon, lui, il est très égoïste. Il lui demande des tas de choses. Il lui fait subir des tas de choses. Pas physiquement, hein, mais je veux dire moralement. Il a déjà toutes ses affaires judiciaires. Et il se fait quand même emprisonner 5 fois en moins de 15 ans pour des affaires de mœurs ou incarcéré pour dette, etc. À chaque fois, elle le défend, parce qu'il y a un combat évidemment avec sa mère aussi. Elle le défend contre sa mère, qui elle veut à chaque fois le faire incarcérer ou en tout cas régler ses problèmes pour pas trop que ces scandales jaillissent sur la famille. Et donc, elle est à la fois comme ça soumise dans l'oblation, et en même temps, à chaque fois qu'il va être dans les pires situations, elle va se montrer d'un héroïsme et d'un courage absolument incroyable. Donc, il y a ce côté double chez elle que je trouve assez sympathique, en fait.
Et alors, Anne Prosper, sa sœur.
Alors, Anne Prosper, on croyait toujours qu'il avait, en fait, rencontré Anne Prosper, enfin, en fait, qu'il avait emmené au château de Lacoste, un certain hiver, sa belle-sœur, mais en fait, on s'est aperçu justement grâce aux lettres trouvées qu'en fait, il l'a connue dès 1769, donc 3-4 ans avant. C'était une jeune femme, voilà. Alors elle très très jolie, assez vive, assez délie, assez coquine, paraît-il. Et donc il l'a emmenée avec elle et sa femme au château de Lacoste. Elle a d'abord fait la conquête de son oncle, le fameux libertin qu'il avait, l'abbé de Sade, qu'il avait éduqué dans son enfance. Et puis en fait, voilà, il a dépucelé tout ça sous les yeux évidemment de sa femme. C'était la fameuse époque où il montait des pièces de théâtre sans arrêt au château de Lacoste. Il lui faisait jouer des rôles dans des pièces où, en fait, elle jouait Anne Prosper le rôle de son épouse et sa femme jouait les rôles d'une comparse et tout. Bon, jusqu'aux ennuis, si vous voulez, qui les font s'échapper ensemble.
Donc c'était tout ça pour le bon plaisir du marquis de Sade ou pour le bon plaisir à tous les deux?
Non, parce que je pense qu'Anne Prosper, d'après ce qu'on a lu, il y a des lettres absolument incroyables. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je peux en lire un extrait.
Allez-y. Enfin, si vous pouvez l'attraper et qu'il n'est pas trop loin dans votre
sac. Voilà, parce que cette lettre capitale qui a été retrouvée est de 1769, donc Anne Prosper lui dit « Je jure à monsieur le marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui, de ne ni me marier ni me donner à d'autres, de lui être fidèlement attaché, tant que le sang dont je me sers pour sceller ce serment coulera dans mes veines. Je lui fais le sacrifice de ma vie, de mon amour et de mes sentiments avec la même ardeur que je lui ai fait celle de ma virginité, et je finis ce serment par lui jurer que si d'ici à un an je ne suis pas chanoinesse, et par cet état que je n'embrasse que pour être libre de vivre avec lui et de lui consacrer tout, je lui jure, dis-je, que si ce n'est pas de le suivre à Venise, où il veut me mener, d'y vivre éternellement avec lui comme sa femme. Je lui permets en outre de faire tout usage qu'il voudra contre moi du discernement, si j'ose enfreindre la moindre clause par ma volonté ou mon inconscience. Bah, c'est quand même signé de son sang. Ouais. Donc, grande passion.
Donc, c'est le grand amour, finalement, de Sade. Alors, il faut revenir un petit peu à René Pélagie, qui est la destinataire des lettres que vous avez donc éditées, puis parler de ces lettres. Alors, c'est beaucoup des demandes, mais aussi des récriminations, parfois même un peu des insultes. Bon, on va dire qu'il est en prison, c'est pas la situation la plus favorable pour écrire de manière détendue. Mais enfin, il y en a quand même qui sont très durs, des lettres à sa femme René Pélagie.
Oui, alors ça commence, en fait, il est complètement fou au début de sa correspondance, parce qu'en fait, il a été mis au donjon de Vincennes, mais en fait, il est complètement au secret. C'est-à-dire qu'il peut voir personne, il a aucun contact avec quiconque, et il sait absolument pas quand il va sortir. Et en fait, la grande cause de sa plus grande fureur, en fait, c'est de jamais savoir quand il va sortir. Et en fait, ça dure, ça s'éternise pendant des années. Alors oui.
Il lui fait des remarques sur son style.
Alors bon, c'est vrai qu'avec sa femme, c'était drôle parce que avant de venir à cette émission, je me suis un petit peu replongé comme ça dans les lettres pour me remettre un peu la tonalité en tête, et je me disais bon. Avec tout ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'arrête pas de transférer les mœurs en fait d'aujourd'hui sur les mœurs du passé, ce qui est absurde, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Et quand on parle du féminisme aussi, de toutes ces histoires avec les féministes attaquent Sade. Alors je me disais, mais c'est drôle, parce qu'en fait, aujourd'hui, on dirait que Sade, c'est une sorte de pervers narcissique, parce qu'il a une emprise, en fait, sur sa femme qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cesse de l'amadouer quand il a besoin d'elle, et puis dès qu'il se sent mieux ou quoi, il l'insulte.
Ah oui, c'est pas très gentil, ça, quand même.
Alors en fait, il y a aussi cette conscience, si vous voulez, d'avoir été malheureux quand même dans sa vie, dans son mariage. Il y a une forme comme ça de conscience que finalement ça a été une mésalliance, et donc il la traite plus bas que terre parfois. Mais il a constamment besoin d'elle parce qu'elle est sa source d'approvisionnement de tout ce dont il a besoin en prison. Il a besoin d'énormément de choses. Et là, il veut absolument pas céder sur son train de vie en prison. Et à l'époque, en prison, on pouvait aménager sa cellule avec des meubles, des tas de choses. Enfin, c'est pas du tout comme les prisons d'aujourd'hui. Hein. Et donc, il a besoin de continuer à vivre sur ce pied. Et donc, il a besoin de sa femme, qu'elle lui apporte des livres, qu'elle lui apporte des tas de choses, des nourritures.
Du coup, c'est encore plus terrible vis-à-vis d'elle.
Oui, mais enfin, elle se bat aussi pour le voir. Elle veut tout le temps le voir. Elle en a besoin. Elle a toujours fait des démarches pour, finalement, à chaque fois qu'il était mis en prison ou que ce soit, de pouvoir le voir. Alors, il y a cette alternance, effectivement, d'insultes. Il lui reproche d'avoir un style plat. Il lui reproche de lui dire des platitudes. Et puis, parfois, il change de ton. Enfin, mais les lettres sont bouleversantes parce que, finalement, on sent quand même une complicité entre eux. Qui est très forte. Finalement, elle est son seul lien avec l'extérieur. Il ne reçoit aucune visite d'aucune autre personne.
Il l'appelle parfois son âme, son ange ou sa petite poularde.
Oui, tout à fait. Et puis, il a même des métaphores poétiques beaucoup plus belles dans certaines lettres, qui sont tout à fait des morceaux de rhétorique sarcastique, en fait, mais qui sont... Et en fait, il continue... Enfin, si vous voulez, ces lettres sont... Comment dire? Elles sont très intéressantes. Pas seulement parce qu'elles sont adressées à cette femme qui est son seul lien, elles sont fantastiques parce que finalement on se rend compte que même en prison, Sade est un caractère indomptable et que finalement il est jamais victimisé en fait. Il continue à avoir cette espèce de souveraineté du moi qui est assez forte. Et après tout, on pourrait se dire, mais finalement, René Pélagie, certes, le divorce n'a été institué qu'en 1792, mais elle aurait pu, finalement, ce qu'elle entreprend en 1790, elle aurait pu l'entreprendre plus tôt, elle aurait pu vouloir se séparer de lui, tout ça, non, jamais.
Enfin, il y a un côté sacrificiel aussi chez elle.
Oui, c'est ça, il y a à la fois ce côté sacrificiel et héroïque, et il y a ce... Et finalement, elle ne demandera à être séparée de lui que quand il sortira, vraiment. Quand
il sort. Une fois qu'elle aura accompli son devoir, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire de le
sortir
de prison.
Oui, c'est ça, c'est une femme de devoir, c'est une femme de vertu. Elle a été élevée, quand il l'a connue, c'était une oie blanche qui était confite en dévotion. Elle pense sans doute que c'est son devoir. Elle a, finalement, les enfants, tout ça là-dedans, c'est pas tellement... moins important.
Alors, elle envoie des livres aussi, ce qui, du coup, nous informe sur ce que lisait Sade en prison. Sade qui est un obsédé textuel, autant que sexuel, écrivez-vous en commentaire.
Oui, il semblerait qu'il ait deux besoins principaux en prison. C'est d'une part la lecture, et deuxièmement, pouvoir sortir, faire ses promenades dans l'enceinte de la prison. Ouais. Effectivement, par les listes d'ouvrages qu'il lui réclame, ça va de Restif à Voltaire, en passant par Diderot, Les Voyageurs, etc. En fait, il a besoin de lire énormément de choses. C'est très, très éclectique, très varié, très presque encyclopédique, en fait.
Il y a du Fielding, d'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, hein, évidemment, tous les grands
plus les gazettes, plus être au courant des nouvelles, etc. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même en prison qui va forger son œuvre, quoi.
Oui. Et puis alors, son œuvre, c'est aussi sa femme qui va la copier. Par exemple, Aline Valcourt sera mise en forme par René Pélagie. Ça aussi, c'est un acte d'amour assez beau.
Oui, parce qu'elle doit lire quand même des choses qui heurtent profondément sa morale religieuse et tous ses principes, mais bon, elle le fait avec une certaine abnégation.
Et puis le plus d'abnégation, c'est peut-être quand elle va fabriquer des objets pour qu'il se satisfasse seul sexuellement. Alors il va rue du Faubourg Saint-Antoine, où il est obligé de donner des explications très intimes pour faire fabriquer des objets en bois, type godemiché, etc., etc. Là aussi, grande abnégation quand même de René Pélagie.
Oui, abnégation, mais je trouve aussi que c'est à côté... Alors évidemment, elle se fait, tout le monde la raille, les colibés des menuisiers, etc., du Faubourg Saint-Antoine, mais en même temps, il y a c'est aussi une preuve comme ça de complicité, de tendresse, pourquoi pas. Et puis il y a, bon, mais ça fait partie aussi du côté obsessionnel de Sade, c'est qu'effectivement il demande des choses extrêmement précises à chaque fois, il y a toute une sorte d'obsessionnalité des mesures des choses, et pas seulement des godemichés, des cahiers dont il a besoin, des tissus dont il a besoin, il faut toujours que ça mesure tant. C'est un truc qu'on découvre chez Sade, qu'on connaît pas forcément, mais en même temps il y a cette passion qu'on voit bien dans les 120 journées, la numérotation, la liste, cette obsessionnalité du chiffré.
Voilà, et tout ça, on peut le découvrir donc dans les 50 lettres du marquis de Sade à sa femme que vous avez édité chez Flammarion en 2009. Par ailleurs, Cécile Guilbert, je signale que les deux volumes de vos recueils d'essais et d'articles sans entrave et sans temps mort sont disponibles. C'est aux éditions Grasset. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Anthony Thomasson. Demain, nous terminerons notre parcours sadien en nous demandant, avec Éric Marty, ce que les intellectuels du XXe siècle pensaient de Sade et comment ils l'ont lu. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est évidemment avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Allez, reprenons notre travail. Patrick Lopin, l'homme imprononçable, à ce vase de la vie en son cloître de porcelaine, à la chair pavoisée, violente, aux violettes amères mûries de l'orage, à mes carnets, à ce jour qui vient où il n'y aura plus rien, à la pluie qui enseigne, aux lumières des sous-bois, à souffrir en musique comme je ne sais pas, à la mer du Nord, son au clavecin qui fait pleurer, ténèbres sans geste, au mal du soir, à l'heure du loup, mon besoin de pénombre et d'alcool, au pont de pierre où l'en allée royale des eaux raconte son histoire, à Tacite, à la Saône et à tous les mémorables, à la lampe sur la table, aux orties et aux pierres, au vent qui tressaille, à une très sainte écriture, noble de charité. Eh ben voilà qui renvoie le sujet, Patrick Lopin. Avec lui, écrire c'est un échange, un aller-retour. Écrire c'est une écoute. Je m'intéresse à la lecture et à l'écriture, dit-il dans Impasse de l'Azur, tout autant qu'au travail avec les autres, depuis le jour où j'ai réellement compris et ressenti que les voix des autres qui parlaient en nous, nous donnaient vraiment quelque chose de mobile et de recréateur. Toutes mes phrases sont orientées par ces cartes géographiques et ce climat d'un dialogue entre le silence et les voix du monde. En ce sens, dans mon écriture, je n'ai jamais fait de différence trop grande entre la poésie, la pensée et le récit. Et je m'en suis remis à l'intonation de la voix. Car si la voix est une nudité, c'est seulement après qu'elle a été écoutée et entendue que l'humain arrache une part de son secret aux ténèbres et s'oriente vers l'essence de la sincérité, qu'il arrache le verbe au cœur de l'innommé et en rapatrie l'essence commune et nomade sur la terre des hommes, des rêves et des langues. Ailleurs dans le texte, je ne dis rien, je me tais, j'écris, ça me calme, ça me décomplique. C'est une manie, je ne fais de mal à personne. Me suis-je trouvé une seule fois près de ce qu'on appelle la vérité ? C'est plutôt non. Je ne sais même pas ce que ça voudrait dire. Je suis une sorte de variation insolite de mes échecs. Je m'en vais, je fuis, je sens une gêne. Il y a en moi, dans ma voix, quelque chose vêtu de l'haleine usagée des idiots. J'aurais aimé faire des études, m'instruire, ne pas me prendre en désamour. Seuls les mots m'ont fait découvrir un peu du mystère du silence d'où ils viennent. C'est mon bien. Alors souvent je pars les rejoindre. Je m'en vais au pays des écritures, au pays des sept ciels, des cerfs-volants à tête de lune, des espaces vides où le vent se pose, où les oiseaux voiliers d'espace suspendent leur course. Dans les réflexions de Patrick Lopin, depuis que les phrases musicales ont déserté le monde, les tentatives de l'avarice répandent leurs pesticides. Psalmistes et janissaires fourbes passent sous les mêmes fourches codines. Les démons font des émules. La parole n'est plus une contrée gardée par les roses aux yeux fertiles.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez cette semaine des textes de Patrick Lopin.